cette édition des 13 et 14 juin avec la revue de presse internationale. Vous écoutez l'émission Le Débrief, votre rendez-vous quotidien en info à l'antenne de votre fréquence communautaire francophone locale. Voici votre revue de presse internationale. On débute dans le portail Bastamag pour une nouvelle qui concerne les récentes législatives en France. Premier tour vers une nouvelle assemblée très élitiste qui renforce la fermeture sociale. C'est par le journaliste Yvan Duroy dans le portail, je le répète, bastamag.net. Alors dans cet article d'Yvan Duroy dans le portail Bastamag, on apprend que près de 70% des candidats qui sont en lice actuellement dans l'espoir d'occuper un poste de député sont issus des classes supérieures de la société française. Ce sont des cadres du privé, 20%, des industriels, 10%, mais aussi des patrons d'entreprises, des avocats et des médecins. À l'opposé, les ouvriers, les employés et les professions intermédiaires du privé ne représentent que 6,5% des candidats, alors qu'ils pèsent pour 75% dans la population française. Ces catégories étaient déjà peu représentées à l'Assemblée nationale française, peut-on lire. Elles disparaîtront presque totalement du débat politique du nouvel hémicycle de l'Assemblée nationale. Cette fermeture sociale, écrit le journaliste, soulève des interrogations. Elle était malgré tout compensée par les partis traditionnels, notamment à gauche, qui permettaient à des candidats d'origine modeste de progresser sur le plan social. C'est donc cette fonction de mobilité sociale ascendante par la politique qui pourrait être remise en cause par la généralisation d'un recrutement direct, ne profitant qu'à des personnes déjà suffisamment dotées en ressources sociales pour tenter l'aventure électorale. Voilà un papier qui porte à la réflexion sur la composition future de l'Assemblée nationale française à l'issue du second tour qui aura lieu le 18 juin. C'est à lire dans le portail bastamag.net sous la plume d'Yvan Duroy. En Grande-Bretagne à présent, Theresa May a perdu son pari insensé. C'est par le journaliste Jean-Louis Le Gallery. C'est plutôt une chronique ou, si vous voulez, une tribune. Les résultats des élections législatives au Royaume-Uni le 8 juin montrent que l'actuelle première ministre conservatrice, tout comme son prédécesseur, paie un aveuglement et un orgueil démesurés. Il semble que, au-delà du leader, le parti conservateur britannique aura peut-être besoin d'un psychanalyste, écrit le journaliste Jean-Louis Le Gallery. En effet, comment expliquer d'une part la décision de David Cameron d'organiser un référendum le 23 juin 2016, l'année dernière, un référendum, rappelons-le, qui portait sur l'appartenance à l'Union européenne, alors qu'il n'y était nullement obligé? Et d'autre part, comment expliquer, encore plus insensé, la décision de Theresa May d'appeler, il y a environ un mois, des élections législatives pour le 8 juin, des élections anticipées donc, avec 3 ans d'avance sur le calendrier normal, et alors qu'elle avait la majorité au Parlement? Comment l'expliquer, écrit le journaliste, sinon par un égo démesuré dans l'un et l'autre cas. Donc, égo démesuré pour David Cameron et pour sa successeur Theresa May. Deux coups de folie, assurément, sur lesquels les historiens se pencheront avec intérêt lorsqu'ils analyseront en ce début de 21e siècle l'évolution du Parti conservateur britannique. Et dans les deux cas, une arrogance, une condescendance, une autosatisfaction et un dogmatisme proprement renversant, écrit le journaliste de Mediapart. Pour David Cameron, comme pour Theresa May, poursuit-il, le désir d'obtenir une sorte de blanc-seing a été plus fort que la logique politique et surtout que la tradition du Royaume-Uni. Le geste de Cameron était déjà puissamment suicidaire et le rapprochait un peu plus de la folie du roi Lear de William Shakespeare. Mais la décision de Theresa May est incompréhensible, politiquement illisible et tout aussi suicidaire et ne peut s'expliquer que par un orgueil démesuré. La première ministre May n'avait pas été désignée à l'issue d'un scrutin, mais par un vote au sein du Parti conservateur à la suite de la démission de David Cameron, son prédécesseur. Démission consécutive à la victoire du Brexit. Et donc, Theresa May souhaitait être adoubée par les électeurs. Elle disposait de la majorité à la Chambre des communes, rappelle le journaliste. Elle ne l'a plus, puisque les résultats provisoires ne lui donnent plus que 318 sièges sur 650, alors que son parti, le Parti conservateur, disposait auparavant de 330 sièges. Le Parti travailliste avait 229 députés, il en aura au moins 261 dans la nouvelle configuration. Donc un article fort intéressant, c'est une analyse, un billet si vous voulez, du journaliste Jean-Louis Le Gallerie dans le média indépendant Mediapart.fr. Et toujours à propos de ces élections britanniques et de leur suite, ces Irlandais du Nord prêts à voler au secours de Theresa May. C'est dans le journal Le Monde. Cinq jours après son échec électoral, la première ministre britannique rencontrait aujourd'hui Arlene Foster, leader du parti nord-irlandais DUP, pour tenter de s'assurer une majorité parlementaire. Les deux femmes se sont séparées sans avoir trouvé d'accord. Alors, le parti de Theresa May avait d'abord démenti tout accord avec le DUP, qui est véritablement un parti d'extrême droite, il n'y a pas d'autre mot, mais il semble que les pourparlers se poursuivent et qu'une alliance pourrait avoir lieu. Cet article du journal Le Monde se poursuit en ces mots. Très peu connue en Grande-Bretagne, Arlene Foster arrive aujourd'hui à Downing Street en faiseuse de reine. La dirigeante du Parti démocratique unioniste, le DUP, le premier parti d'Irlande du Nord, devait rencontrer Theresa May en début d'après-midi, mardi 13 juin. Arlene Foster sait qu'elle détient les clés du maintien au pouvoir de la première ministre britannique. Après les élections législatives du 8 juin, les conservateurs n'ont que 318 députés à la Chambre des communes, rappelle cet article du journal Le Monde, alors que la majorité absolue est de 326. Le DUP, qui a 10 sièges, peut apporter les voix manquantes dont a besoin Theresa May. Et cet article du Monde rappelle que la politique en Irlande du Nord n'a rien à voir avec celle du reste du Royaume-Uni. Conservateurs et travaillistes y sont absents complètement. Plutôt, ce sont les lignes de fracture identitaire qui dominent. D'un côté se trouvent les unionistes, les protestants, qui veulent rester dans le Royaume-Uni. Et de l'autre, on trouve les républicains catholiques qui veulent rejoindre la République d'Irlande au sud. Alors voilà, l'analyse se poursuit dans le journal Le Monde. Ce petit parti irlandais minuscule qui détient les clés du pouvoir pour Theresa May, la première ministre britannique, qui a subi un revers, qui demeure très très fragile au pouvoir en Grande-Bretagne. Vous trouverez ça dans le journal Le Monde. Et pour poursuivre l'analyse, si vous voulez aller encore plus loin, approfondir les suites de cette élection britannique, vous trouverez dans le portail Mediapart « Theresa May ravive la flamme du Nasty Party ». C'est un article signé par Hélène Lefrançois. Je vous lis les premières lignes. La première ministre britannique s'apprête à signer un accord avec le DUP, le parti unioniste nord-irlandais ultra-conservateur, opposé à l'avortement et au mariage pour tous. Cet arrangement politique, perçu comme un acte désespéré, agace et inquiète au sein de son propre mouvement politique. On se transporte aux États-Unis maintenant. Cette analyse du Monde mérite d'être mentionnée dans le journal Le Monde. Donc, on a cet article intitulé « Les États-Unis allergiques aux traités internationaux ». La décision de Donald Trump de quitter l'accord de Paris sur le climat a déclenché un tollé partout sur la planète. C'est par la journaliste Juliette Branciard. Et cet article propose une remontée dans le temps et une démonstration finalement que les États-Unis effectivement sont allergiques aux traités internationaux. Depuis près d'un siècle, la première puissance mondiale n'hésite pas à faire fi des accords mondiaux. En 2017, bien sûr, Trump se retire de l'accord sur le climat. Ça, c'est le plus récent exemple de cette frilosité quant aux accords internationaux. Mais la journaliste remonte dans le temps, comme je le disais. En 1998, par exemple, la Cour pénale internationale a reçu une fin de non-recevoir des États-Unis. Au début des années 90, la création de tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda remet à l'ordre du jour l'initiative d'une juridiction pénale universelle et permanente, rappelle le journal Le Monde dans cet article. Après des années de négociations au sein de l'ONU, la création de la Cour pénale internationale est votée en 1998 avec 120 voix pour et 7 voix contre, dont les États-Unis. Voilà, 1997, champ libre aux mines antipersonnelles. Vous vous rappelez, c'était l'un des combats de Lady Di, les mines antipersonnelles. Les Américains n'ont pas signé de traité international concernant les mines antipersonnelles. Cet article le rappelle. On peut remonter aussi à 1989, non-ratification des droits de l'enfant. Les États-Unis qui n'ont pas voulu apposer leur signature pour procurer un statut juridique à l'enfant dans le droit international. Et encore plus loin dans le temps, 1919, auto-exclusion de la Société des Nations. Alors cet ancêtre de l'ONU, la Société des Nations, créée au lendemain de la Première Guerre mondiale, les États-Unis n'en avaient pas voulu non plus. Vous avez un petit topo là-dessus également dans cet article qui propose une chronologie de cette allergie des États-Unis aux traités internationaux. C'est par la journaliste Juliette Brancière dans le journal Le Monde, section magazine. Toujours dans le journal Le Monde, on parle de Lafarge, cette entreprise internationale qui est partiellement détenue par des intérêts canadiens. On sait que Lafarge a commis des compromis vraiment douteux et criminels, on peut le dire, en Syrie, en pactisant avec l'État islamique. Donc on a la suite de ce dossier. Lafarge en Syrie, dans Le Monde. Information judiciaire ouverte pour financement d'entreprises terroristes. Le parquet de Paris a annoncé mardi la nomination de 3 juges dans une enquête, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui, visant le cimentier franco-suisse Lafarge. Lafarge qui a pignon sur rue ici à Victoria. Si vous passez sur B, sur le point d'emprunter le Bay Bridge, vous voyez les installations de Lafarge. Donc c'est une multinationale installée dans plusieurs pays. Et je peux vous lire les premières lignes de cet article du Monde. Une information judiciaire pour financement d'entreprises terroristes et mise en danger de la vie d'autrui visant le cimentier franco-suisse Lafarge-Holcim a été ouverte le 9 juin et 3 juges d'instruction ont été nommés, a annoncé le parquet de Paris. L'ONG Sherpa et le Centre européen des droits constitutionnels de Berlin ont porté plainte en novembre 2016 contre le cimentier pour financement du terrorisme et notamment complicité de crimes contre l'humanité. Le ministère français de l'économie a également saisi la justice car l'Union européenne avait interdit dès novembre 2011 l'achat de pétrole en Syrie. On va revenir dans les colonnes de Mediapart. Au Maroc, le Irak, des manifestants de la région du Rif gagnent tout le royaume. C'est par le journaliste Ali Amar. Alors qu'Emmanuel Macron, le nouveau président français, se rend au Maroc, Al-Hosseima, le chef-lieu du Rif, cette région enclavée du nord marocain, est depuis des mois l'épicentre d'une contestation sociale sans précédent depuis l'intronisation de Mohamed VI en 1999. Le mouvement Irak, comme on l'appelle, a fait tache d'huile, révélant une profonde crise de confiance envers l'État marocain. En cause, les promesses de développement non tenues et les espoirs déçus du printemps arabe de 2011. C'est une poussée de fièvre contestataire inédite sous Mohamed VI, écrit le journaliste, que connaît le Maroc depuis près de 7 mois. Il y a eu certes des signaux précurseurs d'un malaise social lancinant dès 2008, lors des émeutes de Sidi Infi, notamment, suivi par le mouvement du 20 février, version locale des printemps arabes et ses milliers de jeunes battant le pavé en 2011 pour réclamer plus de justice sociale. Mais jamais le royaume marocain n'avait éprouvé jusqu'ici une telle défiance populaire envers le pouvoir et ses institutions. La flamèche a pris le 28 octobre 2016 à Al-Hosseima, la perle de la Méditerranée, chef-lieu de la province Rifaine. Ce jour-là, un marchand de poissons a été broyé dans une benne à ordures alors qu'il tentait d'empêcher la destruction de sa marchandise, 500 kilos d'espadons pêchés illégalement et saisis par la police à la sortie du port. C'est alors qu'un chômeur de 36 ans émerge de l'anonymat pour prendre la tête de manifestations qui débordent peu à peu la région du Rif. Alors cet opposant, il s'agit de Nasser Zef Zafi, c'est un homme au verbe haut qui accuse l'État d'être responsable de la mort du poissonnier. Le parallèle avec le vendeur ambulant tunisien qui avait déclenché la révolution en Tunisie est dans tous les esprits, bien sûr, rappelle le journaliste. Alors c'est un article qui comprend également des photos de reportages et que vous trouverez sur le portail indépendant de Mediapart. Au Maroc, le Irak, des manifestants de la région du Rif gagnent tout le royaume marocain. On revient aux États-Unis, cette fois à travers les colonnes de RFI à l'adresse rfi.fr. Jeff Sessions auditionné par le Sénat dans l'affaire russe. Le psychodrame russe se poursuit aux États-Unis. Le ministre de la Justice, Jeff Sessions, était auditionné aujourd'hui, mardi 13 juin, par le Sénat dans l'affaire russe et sur les questions qui restent en suspens après le témoignage de James Comey, l'ancien patron du FBI. James Comey avait en effet cité le ministre de la Justice à plusieurs reprises au cours de ses 3 heures d'audition récemment. Alors, si vous voulez approfondir, c'est signé par la journaliste Anne-Marie Capomaccio dans le portail rfi.fr. Une autre information touchant la Russie, cette fois plus directement, et c'est encore dans le portail de Radio France Internationale, RFI.fr. Russie, face aux manifestants, Poutine choisit la manière forte. En Russie, Vladimir Poutine ne fait décidément pas dans la dentelle avec ses opposants. Plus de 1500 d'entre eux ont été arrêtés lundi 12 juin à travers tout le pays en marge de nouvelles manifestations contre le pouvoir et contre la corruption. Parmi eux, l'opposant numéro 1 à l'homme fort du Kremlin, Alexei Navalny, condamné à 30 jours de prison, la peine maximale encourue. Cet opposant a été reconnu coupable d'avoir appelé à des rassemblements n'ayant pas été autorisés par les autorités. À moins d'un an de la présidentielle russe, le président Vladimir Poutine ne sait de rien. C'est un article écrit par la journaliste Muriel Pompon. Elle est correspondante à Moscou pour RFI. Elle poursuit « Vladimir Poutine ne sait de rien et son adversaire non plus, car on peut désormais parler d'adversaire, même si Alexei Navalny ne peut pas, pour l'instant, être candidat à la présidentielle à cause de sa condamnation du 8 février dernier à 5 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds. Les deux hommes ont donc décidé de jouer la politique du pire. Alexei Navalny aurait fort bien pu accepter de manifester sur l'avenue Sakharov, qui est au centre-ville et sur laquelle se sont déroulées les grandes manifestations de l'hiver 2012, en choisissant d'aller sur l'avenue Tserkaïa, qui donne directement sur la place Rouge. Il savait que son mouvement aurait plus de visibilité. Il savait que les forces de l'ordre interviendraient malgré les mots rassurants de la municipalité, qui avait affirmé qu'elle laisserait faire s'il n'y avait pas de provocation. Or, il n'y a pas eu de provocation, aucune agressivité de la part des manifestants, mais la police est intervenue violemment. Vladimir Poutine a signé un décret interdisant toute manifestation depuis le 1er juin et pour la période de la Coupe de la Confédération. Il lui était impossible de se déjuger. Son image est celle d'un homme à poigne qui ne tolère pas le désordre et cette image plaît à une bonne partie de l'électorat russe. L'Arabie prête à fournir une aide alimentaire au Qatar. Alors c'est assez curieux comme manchette, c'est une manchette qu'on aperçoit dans le fil de Reuters. On sait bien sûr que l'Arabie saoudite est la leader d'un mouvement de pression très forte sur le Qatar. Elle tient le Qatar en isolement complet et voilà qu'elle lui offre une aide alimentaire. Ça ne manque pas de sel, diraient certains. Je vous lis quelques lignes de cette dépêche. L'Arabie saoudite, qui a rompu la semaine dernière ses relations diplomatiques et commerciales avec le Qatar, s'est déclarée prête mardi à fournir, si nécessaire, une aide médicale et alimentaire au petit émirat du Golfe. L'annonce est venue du ministre saoudien des Affaires étrangères, repris par la chaîne Sky News Arabia. L'Arabie saoudite et ses alliés régionaux, dont les Émirats arabes unis et l'Égypte, ont rompu le 5 juin dernier leurs relations diplomatiques avec le Qatar, qu'ils accusent de collusion avec l'Iran et avec des mouvements islamistes extrémistes qui ne sont pas ceux qu'affectionne l'Arabie saoudite. Donc des différences, si vous voulez, entre des alliés. C'est une crise entre alliés à laquelle on assiste actuellement dans le Golfe Persique. Voilà, donc cette dépêche intitulée « L'Arabie prête à fournir une aide alimentaire au Qatar » dans le fil de Reuters. Et dans le portail RFI, où l'on revient un instant, le Maroc envoie de l'aide alimentaire au Qatar. Après l'Iran, c'est désormais le Maroc qui annonce son intention d'envoyer de l'aide alimentaire au Qatar dans la foulée de la crise diplomatique qui isole ce petit pays du Golfe. Après l'Iran, c'est désormais le Maroc qui annonce son intention d'envoyer de l'aide alimentaire au Qatar dans la foulée de la crise diplomatique qui isole ce petit pays du Golfe. En effet, la capitale du Qatar, Doha, a été mise au ban par l'Arabie saoudite et ses alliés pour soutien au terrorisme. Dans un communiqué, le ministère marocain des Affaires étrangères parle d'un geste de solidarité et d'entraide en ce mois du jeûne de Ramadan, mais le Maroc précise que cela n'a aucun lien avec les aspects politiques de la crise. Ce blocus sur le Qatar se poursuit. On va continuer de parler du Moyen-Orient et de l'instabilité, du terrorisme aussi. On a une information qui est apparue à l'origine dans le portail de CBC. C'est une information que je tiens à vous relayer. Selon un récent rapport de CBC Canada, la filiale d'Al-Qaïda en Syrie, qui était autrefois connue sous le nom du Front Al-Nusra, a été retiré de la liste de surveillance du terrorisme des États-Unis et du Canada après sa fusion avec les combattants de la brigade de Zanki et les djihadistes purs et durs d'Ara Al-Sham pour se baptiser d'un autre nom, HTS, ça c'est l'acronyme, en janvier de cette année. Donc, en substance, cet article nous dit que les États-Unis et le Canada soutiennent des factions en Syrie et au Moyen-Orient, qui sont à proprement parler des factions d'Al-Qaïda sous un autre nom. Alors, c'est une nouvelle qui est apparue à l'origine dans le portail de CBC. Je vous donne le titre en anglais. Syria's Al-Qaïda affiliate escapes from Canada's terror list. Donc, une filiale d'Al-Qaïda qui a été retirée de la liste des organisations terroristes par le Canada. Alors, on soutient des factions contre Assad, le dictateur syrien, qui ne sont vraiment pas recommandables. Vous trouverez ça, si vous voulez, aller à la source dans le portail de CBC. Je viens de vous donner le titre. C'est sous la plume du journaliste Evan Dyer, qui est un reporter de CBC. C'est sur cette actualité qui faisait le pont entre l'international et le Canada qu'on referme la revue de presse internationale des 13 et 14 juin. Demeurez avec nous à l'antenne de votre fréquence francophone communautaire locale. L'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien, va se poursuivre dans quelques instants avec la revue de presse du Canada. À tout de suite. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief, édition des 13 et 14 juin. Nous allons passer immédiatement aux nouvelles canadiennes. Voici votre revue de presse nationale. Cour suprême, la juge en chef quittera en décembre. C'est dans le fil de la presse canadienne. La juge en chef de la Cour suprême du Canada, Beverly McLachlin, tirera sa révérence le 15 décembre prochain. Son départ a été annoncé lundi après-midi par voie de communiqué. Ce fut un grand privilège de servir la Cour suprême du Canada pendant autant d'années, d'abord en tant que juge, puis en tant que juge en chef, a affirmé la juge McLachlin. Et cet article mentionne que la juge est originaire de Colombie-Britannique en passant. Elle quittera son siège dans environ 6 mois et elle le fera en établissant 2 marques historiques, précise la presse canadienne. La première, qui restera dans les annales, est celle d'avoir été la première femme nommée au prestigieux poste de juge en chef de la Cour suprême du Canada. La seconde marque est celle de la longévité. Avec ses 18 années passées dans la chaise de juge en chef, Beverly McLachlin établit un nouveau record. Le premier ministre Trudeau a souligné les réalisations inégalées dans l'histoire du Canada de cette pionnière et chef de file du monde judiciaire. On reste dans le fil de la presse canadienne. Justin Trudeau nie avoir demandé à Angela Merkel le silence sur l'accord de Paris. Le premier ministre Justin Trudeau nie avoir demandé à la chancelière allemande Angela Merkel de retirer toute mention de l'accord de Paris du communiqué qui découlera de la réunion du G20. Il a réfuté lundi à la Chambre des communes à Ottawa cette information contenue dans un article paru vendredi dernier dans la publication allemande Der Spiegel. Der Spiegel a écrit dans ce texte que le premier ministre canadien Justin Trudeau a suggéré à son homologue allemande de biffer toute référence à l'accord climatique pour éviter de vexer le président américain Donald Trump. « Non, je n'ai pas dit cela », a-t-il tranché lorsque son vis-à-vis néo-démocrate Thomas Mulcair lui a demandé de donner l'heure juste lors de la période des questions en chambre à Ottawa. Une correction a d'ailleurs été demandée par le bureau du premier ministre au Der Spiegel, car ce qui est rapporté dans l'article est faux, selon le premier ministre. Et la presse canadienne précise qu'au moment de publier ces lignes, en début de soirée lundi, le magazine allemand Der Spiegel n'avait toujours pas répondu à la demande du bureau du premier ministre et l'article publié en ligne demeurait inchangé. On continue dans la veine de l'accord de Paris. Le Canada ne fléchira pas pour Washington. La ministre fédérale de l'Environnement prévient que le Canada ne voit aucun intérêt à renégocier l'accord de Paris sur le climat dans le seul but de ramener au bercail les États-Unis. C'est également dans le fil de la presse canadienne. Catherine McKenna, la ministre de l'Environnement du Canada, a soutenu lundi qu'elle avait été très claire là-dessus lors d'un entretien bilatéral avec le directeur de l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, dimanche en marge d'une réunion ministérielle du G7 en Italie. Il s'agissait de la première rencontre avec la ministre de l'Environnement canadienne et Scott Pruitt, qui est le chef de l'EPA, depuis que le président américain Donald Trump a annoncé son intention de retirer les États-Unis de l'accord international de Paris, la COP21. L'entente COP21 fixe les objectifs afin de maintenir le réchauffement climatique de la planète à moins de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux observés avant l'ère industrielle. Les États-Unis, plus importante économie du monde, arrivent deuxième au chapitre des émissions de gaz à effet de serre, rappelle cet article de la presse canadienne. Un article qui nous vient de la région des Cantons de l'Est dans la province du Québec. Raif Badawi à travers la voix de son épouse. Raif Badawi, c'est un poète et blogueur saoudien qui est en prison pour avoir exprimé ses opinions sur le régime saoudien. Son épouse est réfugiée au Canada, dans la région des Cantons de l'Est, à Sherbrooke, au Québec. Elle a reçu un doctorat honorifique de l'Université de Sherbrooke. C'est rapporté par La Tribune, le journal de Sherbrooke. Je vous lis quelques lignes de l'article d'Isabelle Pion. Les mots du prisonnier d'opinion Raif Badawi ont résonné à travers la voix de son épouse Anshaf Haidar jeudi à l'Université de Sherbrooke, alors que l'institution lui remettait un doctorat honorifique. Anshaf Haidar a ému tout le monde en reprenant le message de son mari. Votre formidable position m'a permis de comprendre que le monde extérieur ne m'a pas oublié ni oublié ma cause. Elle m'a aussi permis de voir que nous nous tenons solidaires dans notre humanité, solidaires dans notre combat pour la liberté d'expression et d'opinion, solidaires aussi dans notre conscience que les droits de l'homme sont les droits de chaque humain, abstraction faite de sa religion ou de sa culture. Merci pour cet honneur, a-t-elle poursuivi. Merci de ne pas avoir oublié. Ce sont les paroles de Raif. Je vous les transmets en vous remerciant, a-t-elle complété. Cette allocution indique que la journaliste de La Tribune a ému aux larmes plusieurs personnes dans la salle. Je rappelle le titre. Raif Badawi, à travers la voix de son épouse, merci de ne pas avoir oublié. Raif Badawi, rappelons-le, a été soumis à des flagellations, notamment durant son incarcération. Il demeure prisonnier actuellement au Royaume d'Arabie Saoudite. Dans le journal Le Devoir, à propos des nominations partisanes, on trouve cet article de Marie Vastel. Nomination, le NPD veut avoir son mot à dire. Le député Alexandre Boulris, un député néo-démocrate, a fait valoir à la Chambre des communes la nécessité d'une réforme du processus des nominations. C'est pour éviter un nouveau fiasco, selon son terme, comme celui de la nomination avortée de Madeleine Meilleur, que le NPD souhaite modifier le processus de sélection des chiens de garde du Parlement, mais aussi pour s'octroyer un droit de regard, car les néo-démocrates invitent le gouvernement libéral à créer un sous-comité parlementaire qui aurait la possibilité d'approuver ou non une nomination du genre. Le NPD critique depuis des semaines la nomination par Justin Trudeau de l'ex-ministre libérale ontarienne Madeleine Meilleur comme commissaire aux langues officielles. Bien que Madeleine Meilleur se soit récusée la semaine dernière, les néo-démocrates ne lâchent pas le morceau et profiteront de leur journée d'opposition mardi pour déposer une motion réclamant un changement au processus de nomination. Autant le NPD que le Parti conservateur, bien sûr, s'opposent aux nominations partisanes d'officiers du Parlement, et l'affaire Madeleine Meilleur leur a donné l'occasion de se faire entendre sur ce sujet. On va poursuivre cette revue de presse nationale avec un article qui paraît dans l'hebdomadaire L'Actualité à l'adresse l'actualité.com. Le Canada a connu une hausse des crimes haineux en 2015. C'est tiré du fil de la presse canadienne et ça paraît notamment dans l'actualité. Les crimes haineux perpétrés au Canada ont bondi de 5% en 2015, a révélé Statistique Canada, évoquant une hausse du nombre d'infractions visant les communautés musulmanes, arabes et ouest-asiatiques. Les chiffres d'aujourd'hui n'indiquent qu'une fraction de ce qui se passe dans nos quartiers, nos lieux de travail, nos écoles et nos lieux de culte, a affirmé Khalid El-Ghazar du Conseil national des musulmans canadiens, le NCCM, lors d'une conférence de presse en début de semaine. Khalid El-Ghazar était entouré de représentants des communautés autochtones, noires et juives lors de cette conférence de presse. Au cours de l'année 2015, poursuit cet article de la presse canadienne, les policiers avaient déclaré un total de 1362 crimes motivés par la haine d'un groupe identifiable, soit 67 de plus qu'en 2014, selon un rapport de l'Agence fédérale rendu public mardi. De ce nombre, 48% avaient pour cible une certaine race ou origine ethnique. Les communautés noires ont été les plus durement touchées, subissant 17% du nombre total de crimes haineux au Canada. Alors, vous trouverez cet article dans le fil de la presse canadienne, notamment repris dans l'hebdomadaire L'Actualité à l'adresse l'actualité.com. Le Canada a connu une hausse des crimes haineux en 2015. Toujours dans le fil de la presse canadienne, les crédits d'impôt dépassés, selon le président du CRTC, le président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Jean-Pierre Blais, secoue le gouvernement et toute l'industrie médiatique dans son dernier discours. Celui qui termine son mandat le 17 juin, après 5 ans à la tête de cet organisme, a profité de la tribune du Festival mondial des médias de Banff, mardi, pour faire passer son message. Les crédits d'impôt sont tout aussi dépassés dans le monde actuel que les machines à vapeur et les calèches, a soutenu Jean-Pierre Blais dans cet entretien accordé à la presse canadienne. Selon Jean-Pierre Blais, le problème provient du fait que les crédits d'impôt sont attribués aux producteurs de contenu pour la télévision, alors que les téléspectateurs se trouvent de plus en plus sur des plateformes numériques. Si les gens sont sur d'autres plateformes, dit-il, ça ne sert à rien de créer du contenu pour les anciennes plateformes. On devrait tout mettre en œuvre pour s'adapter à l'avenir plutôt que de regarder nostalgiquement vers le passé. Jean-Pierre Blais, juste au moment de partir, qui propose un bouleversement complet du fonctionnement des crédits d'impôt qui permettent la création de contenu canadien, une priorité de tous les gouvernements depuis plusieurs décennies. Dans le fil de la presse canadienne, je le disais, c'est intitulé « Les crédits d'impôt sont dépassés », selon le président du CRTC. Un peu plus bas dans le fil de la presse canadienne, la Banque du Canada relève la vulnérabilité informatique du système financier. Les banques interconnectées du Canada prêtent flanc à des cyberattaques qui pourraient effriter la confiance dans le système financier, signale la Banque du Canada. Cette vulnérabilité structurelle ouvre la voie à la propagation foudroyante d'une attaque initiale dans d'autres secteurs comme ceux de l'énergie ou des services d'utilité publique, prévient la Banque centrale du Canada dans sa revue mensuelle du système financier canadien. Ce rapport exhorte les institutions financières à coordonner leurs efforts en matière de cyberdéfense. Un ex-dirigeant de l'agence de renseignement américaine a émis cette même recommandation plus tôt ce mois-ci. Keith Alexander a avancé que les entreprises privées, les banques y comprises, doivent accroître le partage de leurs données sur les tentatives de piratage dont elles ont été la cible. Keith Alexander, c'est un général à la retraite. Il a souligné dans son intervention un peu plus tôt ce mois-ci que de précieuses informations concernant les tentatives d'attaque sont enregistrées dans le pare-feu des banques. La cyberattaque qui avait frappé la banque américaine JP Morgan en 2014, touchant quelques 80 millions de comptes, aurait pu être évitée si ces informations avaient été partagées, a-t-il avancé. C'est ici que se referme la revue de presse canadienne pour les 13 et 14 juin. Restez à l'écoute, le débrief va vous revenir dans quelques instants avec votre rubrique Francophonie du jour. À tout de suite! La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, Michaël Jean, a dépensé $500,000 de fonds publics pour aménager la résidence officielle louée pour elle à Paris. C'est dans le portail de TVA Nouvelles. Cette somme a servi à l'achat d'équipements et à des travaux dans l'appartement de fonction qu'elle habite depuis 2 ans, indiquent des documents obtenus par le bureau d'enquête de TVA Nouvelles. La résidence est située dans le prestigieux 7e arrondissement de la ville Lumière, tout près de la Tour Eiffel. Pourtant, le locataire précédent, pendant 3 ans, l'ex-ambassadeur canadien à l'UNESCO, Jean-Pierre Blackburn, juge que l'état des lieux était relativement bon, malgré quelques problèmes d'eau chaude et de climatisation. Dire que c'est en mauvais état serait exagéré, a-t-il affirmé à TVA Nouvelles. Cet appartement de 3 chambres, dont Jean-Pierre Blackburn estime la superficie à environ 3000 pieds carrés, est situé dans un endroit extraordinaire, dit-il. L'OIF est financé par 84 États du monde, rappelle le journaliste Alexandre Robillard du bureau d'enquête de TVA Nouvelles dans cet article. Et l'OIF reçoit des contributions obligatoires de $15 millions de la part du Canada et $1,5 million de la part du Québec chaque année. L'organisme ne publie pas les dépenses de sa dirigeante. C'est une source dont nous préservons l'anonymat qui nous les a fournies. En entretien avec TVA Nouvelles, le numéro 2 de l'OIF, Adama Ouane, estime que l'appartement de fonction ne correspondait pas aux normes attendues. L'organisation a l'obligation de loger les secrétaires généraux dans des conditions dues à leur statut, explique celui qui porte le titre d'administrateur de l'OIF. Adama Ouane a une opinion différente de celle de Jean-Pierre Blackburn sur l'état des lieux avant l'arrivée de Michaël Jean. L'appartement n'était pas habitable, a tout bonnement déclaré Adama Ouane à TVA Nouvelles. Quant à Madame Michaël Jean, elle a refusé d'accorder une entrevue aux journalistes. Un autre porte-parole de l'OIF poursuit cet article, Bertin Leblanc, indique que les travaux avaient pour but de faire de la résidence officielle de la secrétaire générale un lieu permettant également la tenue d'événements publics. Il précise que le processus a été mené dans un souci d'économie et de réduction des coûts. Michaël Jean, ex-gouverneur général du Canada, a pris ses fonctions à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie au début de l'année 2015, après avoir été élu lors d'un sommet des chefs d'État et des gouvernements francophones à Dakar. Ce n'est pas la première fois que ces dépenses dépenses défraient la manchette. En avril 2016, le journal français L'Opinion avait révélé que la dirigeante de l'OIF s'était fait payer un piano à queue d'environ 20 000 $ par l'organisation. Sa résidence officielle est louée par l'OIF au coût annuel de 103 000 €, soit environ 13 000 € par mois. La francophonie n'a aucune garantie de récupérer le $500 000 investi dans cet appartement de fonction de Michaël Jean, puisqu'elle n'est que locataire et non propriétaire des lieux. Alors voilà, c'est une nouvelle révélée par TVA Nouvelles, des rénaux de $500 000 dans l'appartement de fonction de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean. Et Michaël Jean qui a rebondi, réagi suite à la parution de cette nouvelle sur le portail de TVA Nouvelles. Elle a accordé une entrevue aux médias 98.5 à Montréal. « Je ne suis pas une princesse », a déclaré Michaël Jean lors d'un entretien accordé à l'animateur de radio Paul Arcan au 98.5 FM à Montréal. Elle a précisé d'ailleurs lors de cet entretien que le propriétaire de l'appartement était le gouvernement du Canada. « Je ne suis pas une princesse », a-t-elle dit à l'animateur Paul Arcan. « Ce n'est pas du tout dans ma nature. Quand vous recevez des partenaires, des dignitaires étrangers, vous devez les recevoir adéquatement », a-t-elle affirmé. Alors voilà, Michaël Jean qui se défend d'avoir dilapidé les fonds de l'OIF pour ses besoins personnels. C'est plutôt pour pouvoir recevoir des dignitaires, des diplomates, des membres importants de la francophonie internationale que ces rénovations ont été effectuées, soutient-elle. Donc vous trouverez cette nouvelle coup sur coup donc sur le portail tvanouvelle.ca ainsi que sur le portail 98.5fm.ca. C'était votre information à thématique francophone dans cette édition des 13 et 14 juin du Débrief, votre rendez-vous info quotidien. Merci de demeurer à l'écoute de votre fréquence communautaire francophone locale.
Miss, je t'aime et je crains de t'aimer encore longtemps. Chiche, que tu ne me laisseras pas tomber. Qu'on fera du hors-piste, nus comme des vers sur les sentiers de l'apocalypse. Qu'on va mourir sans s'oublier, sans s'oublier. Tout entière, tu danses le twist jusqu'au fond de ma chair. Je vois l'analyste, je me rapproche de la terre. Mourir, c'est trop triste, c'est oublier tout entière. Je ne peux pas, non, me passer de toi, me passer de toi. Tu ne peux pas, non, me priver de toi. Privé de toi. Miss, miss, je ne vois plus guère la lumière. J'ai l'air si triste, je ne sais plus comment faire. Je bois des 8-6, je ne suis plus du tout fier. Mourir, c'est trop triste, c'est finir sous la terre. Je ne peux pas, non, me passer de toi, me passer de toi. Tu ne peux pas, non, me priver de toi. De toi. Si possédé, je ne sais pas.
Nous écoutions à l'instant Benjamin Biolay, une pièce intitulée Miss Miss dans l'émission Le Débrief qui se poursuit. Alexis Gagnon en votre compagnie. On va poursuivre avec la revue de presse provinciale. C'est le moment de passer aux nouvelles de Colombie-Britannique. On débute dans Le Soleil, le quotidien de la ville de Québec, un texte signé Gilbert Lavoie. Gilbert Lavoie est éditorialiste du Soleil depuis plusieurs années. C'est un texte intitulé « La grande bataille du pipeline ». Oubliez Énergie Est, c'est en Colombie-Britannique que la vraie controverse sur les pipelines va se tenir, écrit-il, et ça promet. C'est bien fait pour les politiciens et la presse anglophone qui ont dénigré le Québec à cause de nos réticences devant le projet de TransCanada. TransCanada, effectivement, est cette compagnie pétrolière qui prévoyait construire un pipeline appelé Énergie Est, un pipeline qui allait traverser 800 cours d'eau au Québec et au Nouveau-Brunswick. Le vrai débat va se tenir en Colombie-Britannique plutôt que chez nous, écrit-il. C'est un vrai casse-tête pour le gouvernement de Justin Trudeau. La situation est simple, poursuit-il. Les élections en Colombie-Britannique ont accouché d'un gouvernement libéral minoritaire de 43 députés. Ce gouvernement ne survivra pas au vote de confiance du NPD et du Parti vert, qui ont fait élire respectivement 41 et 3 députés, pour un total de 44. La première ministre libérale, Christy Clark, admet qu'elle ne survivra pas à un tel vote, mais elle a quand même l'intention de s'y soumettre d'ici la fin du mois de juin. Là où ça se corse pour le gouvernement Trudeau, poursuit l'éditorialiste Gilbert Lavoie, c'est que l'entente conclue avec le NPD et les Verts prévoit le rejet du projet de pipeline de Kinder Morgan appelé Trans Mountain, un pipeline qui doit acheminer le pétrole de l'Alberta vers le Pacifique. Ce projet a reçu l'autorisation du gouvernement fédéral, précise-t-il. Justin Trudeau et la première ministre albertaine Rachel Notley sont aux aguets actuellement. Ils font valoir que les projets de pipeline sont de juridiction fédérale. Mais le chef des Verts, Andrew Weaver, en Colombie-Britannique, estime que les articles de la Constitution qui garantissent les droits des peuples autochtones pourraient être invoqués pour contrer la décision d'Ottawa. « Vous voyez l'imbroglio ?» demande l'éditorialiste du journal Le Soleil. « Ce projet de pipeline ne peut pas aller de l'avant dans le contexte d'un tel débat juridique et politique. Qui plus est, l'opposition des Verts à ce projet pourrait coûter cher aux libéraux fédéraux de la Colombie-Britannique aux élections fédérales de 2019. » Lundi, poursuit-il, le Globe and Mail de Toronto a consacré un long éditorial à cette situation pour conclure que Justin Trudeau ne doit pas céder. « Il y va de l'intérêt national », a déclaré le Globe and Mail en citant la première ministre albertaine Rachel Notley. « On ne peut pas accepter comme pays que nos régions côtières ne servent qu'à faire ce que les habitants de ces régions veulent bien faire. » Conclusion du Globe and Mail. « Il y a un principe en jeu ici. Un gouvernement provincial ne devrait pas avoir le droit de veto sur le commerce canadien à cause de sa géographie. » L'enjeu est énorme, poursuit le chroniqueur. Justin Trudeau osera-t-il imposer sa loi? Alors voilà, tout est résumé de façon concise dans cet éditorial de Gilbert Lavoie dans le journal Le Soleil. La grande bataille du pipeline, c'est le titre de cet édito. Je vous le recommande pour vous tenir à jour dans le développement du dossier d'énergie entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. On va se transporter dans les colonnes du journal Métro à présent, un cabinet minoritaire assermenté en Colombie-Britannique. Donc vous êtes sans doute déjà au courant. Le nouveau cabinet de la première ministre de Colombie-Britannique, Christy Clark, a été assermenté lundi. Mais ce gouvernement libéral minoritaire pourrait être de courte durée. Christy Clark, qui avait été assermentée jeudi dernier, a annoncé lundi que son gouvernement prononcera son discours du trône après l'ouverture de la nouvelle session parlementaire le 22 juin. Mais on s'attend à ce que ce gouvernement minoritaire soit défait immédiatement par un vote de confiance dans les jours suivants. Alors voilà, rappel des faits, rappel de ce qui se passera vraisemblablement d'ici la fin du mois de juin. Le titre de cet article qui a été repris dans le journal Le Métro, mais qui est issu à l'origine du fil de la presse canadienne, un cabinet minoritaire assermenté en Colombie-Britannique. Si vous voulez revenir sur les éléments fondamentaux entourant le gouvernement minoritaire qui s'annonce en Colombie-Britannique. On va se transporter dans un journal régional du Québec, L'Avantage. C'est un journal de Rimouski qui nous parle de Colombie-Britannique de façon assez directe. Guy Caron obtient un appui de taille pour la chefferie du NPD. Donc Guy Caron, c'est un député du Parti néo-démocrate fédéral qui est élu dans la région de Rimouski. Il a obtenu un appui de taille, dit le journal, de la Colombie-Britannique. Le député de Rimouski, Najat Témiscouata, les Basques, Guy Caron, reçoit un appui de taille à sa campagne à la direction du NPD, celui de l'ex-député de Nanaimo Kawichan, ancienne porte-parole du NPD en matière d'affaires autochtones, Jean Crowder. Guy Caron, qui poursuit sa campagne à la succession de Thomas Mulcair, qui reçoit un appui sérieux, un appui de taille de Colombie-Britannique. Vous trouverez ça dans le journal régional L'Avantage. C'est signé par le journaliste Alexandre Dastou. On va terminer avec une nouvelle qui paraît sur un blog littéraire européen. C'est fort intéressant. Ça concerne la Colombie-Britannique. Vous allez voir, au Canada, une bibliothèque propose de lire des manuscrits non publiés. La bibliothèque Brautigan à Vancouver fonctionne sur un bien étrange concept, écrit le blog actualité.com. Il s'agit de mettre en avant des manuscrits brouillons, textes de toutes sortes, à la seule condition qu'ils n'aient jamais été publiés, avec la possibilité pour n'importe quel écrivain en herbe de figurer parmi ses œuvres. Idée originale que voici, la bibliothèque Brautigan propose à ses visiteurs non pas de lire les derniers ouvrages à la mode, ni même d'emprunter des livres, elle invite plutôt les lecteurs à feuilleter sur place des manuscrits qui n'ont jamais été publiés. Cette bibliothèque inusitée contient un peu plus de 300 manuscrits physiques et continue d'agrandir sa collection en version numérique, poursuit cet article du blog Actualité. Et je précise, pour ne pas qu'on confonde avec l'hebdomadaire L'Actualité, que le nom de ce blog s'écrit Actualité, A-C-T-U-A-L-I-T-T-E. Donc c'est l'ité comme dans littérature, actualité.com. Je rappelle le titre, au Canada, une bibliothèque propose de lire des manuscrits non publiés. C'est avec cette information insolite que se referme le tour d'horizon des nouvelles provinciales de Colombie-Britannique. Mon nom est Alexis Gagnon. Vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. On effectue une courte pause. Au retour, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Dominique Wozniak, responsable des communications à la Société francophone de Victoria. Avec Dominique, on va faire le point des activités du 24 juin, jour de la Saint-Jean. Restez à l'écoute. Vous écoutez CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief. En fin de journée, nous accueillons en studio une fidèle de l'émission, Dominique Wozniak. Bonjour Dominique.
Bonjour à tous, bonjour Alexis.
Alors Dominique, on parle de la Saint-Jean-Baptiste, la fête des francophones d'un bout à l'autre du pays. Quelles sont les activités sur le radar de la société cette année?
Alors oui, vous savez que le 24 juin, c'est un jour vraiment béni pour les francophones.
Oui.
Partout au Canada, donc nous sommes fêtés. Alors c'est une grande chance ici à Victoria parce que avec le 150, la ville organise vraiment quelque chose d'important.
Ah oui.
Oui, ça date en gros, c'est du 21 juin au 1er juillet au niveau du port à Ship Point. Donc c'est à l'intérieur du port, vous savez, c'est l'avancée Ship Point.
Oui.
Et à ce niveau-là, il va y avoir pendant 11 jours des festivités. Et le 24 juin particulièrement, oui, nous serons fêtés. Alors la célébration de la francophonie sera toute la journée.
Oui.
Avec quelque chose vraiment de nouveau.
Oui.
Qui est organisé par le Centre de la francophonie des Amériques. Donc c'est une porte interactive. Un peu comme la porte des étoiles.
D'accord.
Alors, c'est une porte qui est dotée d'une énorme télévision, de caméras, de micros, et tout cela permettra aux francophones de tout le Canada d'échanger à distance.
Ah bon?
Voilà.
Ok, donc ça peut intéresser les familles, selon toi?
Ben, ça peut intéresser tout le monde.
Oui.
Et en même temps, donc vous verrez en pied, complètement, avec d'autres personnes de l'autre côté, à Moncton, où il y a 6 villes qui sont partenaires. Voilà, donc je vous conseille d'aller sur Internet, d'aller sur notre Facebook pour en savoir un peu plus.
C'est à quel endroit cette porte?
C'est au Ship Point.
Ship Point, ok. Est-ce que c'est là que se concentrent toutes les festivités de la Saint-Jean cette année?
Oui. Oui. Ça sera là-bas.
Donc, on peut débuter de grand matin avec l'expérience du portal, du portail pan-canadien.
Oui.
Et par la suite, enchaîner avec d'autres activités.
La porte sera là toute la journée et nos chanteurs favoris seront présents à partir de 5h15, donc avec Couscous. Que vous connaissez,
oui,
bien sûr,
qui sont venus nous parler à l'occasion du Festival de la Francophonie il y a quelques semaines.
Mm-hmm. Donc c'est Gary Cohen et Amber Woods, la percussionniste. Donc c'est un duo musique du monde.
Oui.
Ensuite, alors notre star, évidemment, vers 18h, il y aura Régent Bussière.
Très
connu.
Qui s'est lui aussi produit sur la scène du Festival de la Francophonie tout récemment.
Voilà. Et puis, ensuite, toutes les heures, donc 7, 8, 9, on a Saint-Pierre, Fanny et Parti et Laurence Castera qui se produiront aussi sur la scène.
Donc voilà le topo pour le 24 juin. Pour obtenir les renseignements que tu viens de donner aux auditeurs, on peut se rendre à l'adresse de la Société francophone de Victoria.
francocentre.com.
francocentre.com, où on trouve les informations dès la page d'accueil. Hein?
Dès la page d'accueil, ou bien sur notre Facebook aussi, les informations vont venir au fur et à mesure.
Entendu. Donc, c'est un rendez-vous le 24 juin à Ship Point, à Victoria, pour les activités entourant la Saint-Jean 2017. Dominique Wozniak, responsable des communications à la SLV, grand merci pour ce petit tour en studio.
Merci à tous, à bientôt.
À bientôt. Merci à toi, Dominique, pour ces infos sur la Saint-Jean qui approche à grands pas dans une dizaine de jours. C'est déjà tout pour le débrief. On va rapidement jeter un petit coup d'œil aux prévisions de la météo en se transportant immédiatement dans le portail d'Environnement Canada à l'adresse météo.gc.ca. Si vous nous écoutez en fin de journée, le 13 juin, on a environ 16 degrés à l'aéroport de Victoria. Ça a oscillé entre 16 et 17 actuellement. Demain, mercredi 14 juin, malheureusement, ce sera nuageux, nous indique Environnement Canada, un maximum de 15 degrés, nuageux avec une probabilité d'averse de 40%. Donc on va peut-être échapper aux averses et ça demeurera nuageux et pluvieux en fin de journée également. Environnement Canada prévoit des averses dans la soirée de mercredi 14 juin. Pour jeudi 15 juin, même scénario, vendredi 16 juin également, la température va monter à 20 degrés le 16 juin, mais les averses continueront de tomber sur la grande région de Victoria. Bonne nouvelle, Environnement Canada nous annonce que le week-end sera ensoleillé. Donc c'est encore un petit peu éloigné dans le temps, mais la prévision du service météorologique d'Environnement Canada nous indique que ce sera un soleil sans rival samedi 17 juin, un maximum de 19 degrés, donc une vraie journée estivale. Rebelote pour le dimanche 18 juin, 22 degrés avec le soleil dans un ciel bleu. Donc on va toucher du bois en prévision du week-end qui s'annonce et espérer que les prévisions demeureront les mêmes. Encore merci d'avoir suivi le débrief dans cette édition des 13 et 14 juin. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
Brigitte Burroughs du Parlement franco-canadien du Nord et de l'Ouest. Vous écoutez CILS FM 107,9 à Victoria. À Victoria.
Vous aimeriez en connaître plus sur l'histoire personnelle des grands compositeurs classiques? L'influence de la modernisation des instruments dans la musique de 1600 à aujourd'hui? Ne manquez pas Histoire classique avec Louise Alpin, diffusée 3 fois par semaine sur les ondes de CILS FM.
Les routes tournent encore, mais mes pensées sont down.
Qu'on soit dans le champ ou dans la brume, qu'on aime les blondes, les rousses, les brunes, le drame ultime, l'envie d'un homme, c'est de perdre son casque de cowboy. La première fois que c'est arrivé, il y avait 3 ans, il l'a déposé. Il n'y avait pas le choix, oui, ça pressait. Fallait qu'il se rende au cabinet. La deuxième fois que c'est arrivé, sa maîtresse lui a confisqué. Il a voulu le prendre avec son lasso. Il a oublié son coup, ça c'était trop. Qu'on soit dans le champ ou dans la brume, qu'on aime les blondes, les rousses, les brunes, le drame ultime. L'envie d'un homme, c'est de perdre son casque de cowboy. La troisième fois que c'est arrivé, Linda voulait un peu l'aider. Ça swingait fort dans le fond du champ. Il a revolé sur le taureau de Roland. Qu'on soit dans le champ ou dans la brume, qu'on aime les blondes, les rousses, les brunes. Le drame ultime dans la vie d'un homme, c'est de perdre son casque de cowboy. C'est arrivé, Linda voulait encore l'aider. Elle l'a laissé pour le taureau. Fait qu'elle a donné son chapeau. Qu'on soit dans le champ ou dans la brume, qu'on aime les blondes, les rousses, les brunes. Le drame ultime dans la vie d'un homme, c'est de perdre son casque de cowboy. Qu'on soit dans le champ ou dans la brume, qu'on aime les blondes, les rousses, les brunes. Le drame ultime dans la vie d'un homme, c'est de perdre son casque de cowboy. Oh, c'est de perdre son casque de cowboy.
CIL SFM, la voix de votre communauté.
Mon nom est Vanessa et vous écoutez CILS FM.
Allô la planète avec Chapka.
Et c'est reparti, bonjour tout le monde, émission numéro 161 d'Allô la planète, ok, oui. Où que vous soyez en ce moment, bien sûr, l'émission est là pour vous. C'est vous qui discutez avec nous, qui nous le racontez, le monde, si tout va bien. Aujourd'hui, on rencontrera Raphaël qui prévoit un tour du monde de 2 ans sur son petit bateau. Steven et Pia arrivent d'un tour du monde. Et le camarade Hervé, où est-il Hervé?
Allô la planète, avec Eric Lange.
Ah, mais oui, c'est à la Martinique, bien sûr. Salut Hervé, bienvenue.
Salut Eric, tu vas bien?
Mais oui, comment va la Martinique?
Plutôt bien. Ouais. Il pleut toujours bien, ouais.
Il pleut là? Ah oui, c'est la saison?
Non, là non, c'est on est encore dans, sur le carême là. Il fait encore bien bio et bien sec.
Bon, et rappelle-nous ce que tu fais là-bas et tout ça, depuis combien de temps dans Martinique?
Là, ça va faire une petite année qu'on est arrivé ici. On est arrivé pour le boulot de mon épouse. Et voilà, on a voulu laisser la métropole derrière nous et on est venu. On cherchait un endroit sous les tropiques et puis bon, c'est la Martinique qui nous a ouvert les bras. Donc on s'est installé ici.
Ah oui, c'est vrai que t'es fan d'expat.
Voilà.
Non, mais il va falloir s'habituer à ce qu'il y ait maintenant des maris d'expat.
Eh ben oui. C'est des arts. Pourquoi pas.
Elle travaille dans quoi, madame?
Elle est infirmière.
Infirmière? Ah ouais, ça, c'est jobs que t'as partout, ça.
Eh ben. Pour voyager, je crois qu'il n'y a rien de mieux.
Ah bah, d'expérience de tout ciel ou la planète, il y a infirmière, kiné. Les kinés, ils bossent partout. Boulanger, ah boulanger, ça c'est bien, tu travailles partout. Et cuisinier, voilà. Voilà les quatre jobs qui vous permettent d'aller partout, monsieur, dame. Et toi, tu fais quoi?
Moi, je suis ingénieur informatique. Ah. Mais pour, moi, j'ai gardé ma place en fait en métropole. Je travaille à distance avec, avec la métropole. Merci Internet.
Oh bah elle est belle, c'est parfait.
Ouais, la vie est pas mal, ouais.
Et t'as... non mais c'est génial. Et donc toi, tu bosses à la maison, tout ça et...
Exactement.
Et, c'est... et elle est bien la maison, tu bosses. Est-ce que tu vois la mer et le lagon bleu de ta fenêtre quand tu travailles?
Tout à fait. Je vois la mer et je vois la trinité de ma fenêtre, de mon
c'est pas
bureau. C'est une table face à la mer, ouais.
Je veux faire ça.